Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
La buvette, on le rappelle, est ouverte les mercredis et jeudis de 16 à 20 heures, les vendredis et samedis de 14 à 22 heures et les dimanches de 10 heures à 18 heures. Il y a des tables, il y a des jeux de société à disposition, une caravane avec des tartes, des crêpes et plein de boissons fraîches et puis des chaises et des tables qui sont à l'ombre. Et nous sommes contigus des serres de Beaulieu avec les plantes pas loin. Il doit y avoir les poulettes, enfin les galinettes. Et puis il y a toutes ces belles plantes là qui sont juste à côté de nous. Donc l'espace est extrêmement, avec un petit air, on y est bien, et est extrêmement bucolique. Voilà, alors nous allons maintenant parler avec Raphaël de l'ACPAT. L'ACPAT, ça désigne l'association de concertation et proposition pour les transports. Et nous allons parler avec lui parce que la semaine passée, une semaine entière de balades ont été dévolues à cette situation-là, à ce projet démesuré et que dénonce cette association. Et alors l'idée de ce parcours, eh bien le parcours s'est fait sur le tracé de l'autoroute qui donc se rendait de Marchy à Thonon, donc Thonon sur le lac Léman, et donc en s'arrêtant sur les emplacements qui auraient été fortement impactés, tels que des zones humides, des forêts.
Oui, c'est le téléphone de Raphaël, ah. Je me suis pas là.
Je crois que là on tombe sur la messagerie, c'est ça. Voilà, donc on va attendre quelques instants puis on va rappeler. Donc voilà, je le disais, cette marche qui a duré à peu près une semaine, si mes souvenirs sont bons, eh bien elle a fait étape sur des lieux fortement impactés par la construction de cette autoroute, dont l'utilité est fortement contestée puisqu'il notamment par cette association-là, mais également par toute une série de personnes institutionnelles, si j'ai bien compris, puisque des études d'impact ont été mal réalisées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites un petit peu à la va-vite. Et puis, pourquoi en rajouter alors qu'une route est déjà présente et, si j'ai bien compris, qu'elle suffit largement à balader les gens d'un endroit du point A au point B, sachant qu'on le sait, dès lors que l'on additionne et que l'on augmente les espaces urbains, eh bien, ça ne diminue pas le trafic. Bien au contraire, ça l'augmente. Voilà. C'est tout bon pour les auditrices et auditeurs, c'est OK. Voilà, alors on peut commencer. Alors, bienvenue, Raphaël. Donc, nous te recevons pour parler de ce projet autoroutier qui, pour le moins démesuré, dont l'association ACPAT notamment dénonce la nocivité. Donc l'ACPAT, on le rappelle, c'est l'association de concertation et proposition pour les transports d'autoroute. Il s'agirait du tronçon Machy-Thonon. Et la semaine passée, eh bien, 5 jours de marche sur le tracé ont été organisés par vous-même pour en découvrir les trésors et les espaces naturels menacés. On l'a dit au sommaire de cette émission, un projet pharaonique qui impacterait durablement et dangereusement eh bien, des zones humides, des forêts et également des propriétés. Hein, des paysans seraient touchés et pourraient être expropriés. Alors, bienvenue déjà, Raphaël, comment va ? Super. Alors dis-moi, comment s'est passée cette marche, ces 5 jours de marche, s'il fallait en faire un bilan maintenant, est-ce que des gens sont venus, nombreux, est-ce que vous avez pu parler, est-ce que vous avez pu justement dénoncer ce que vous vouliez dénoncer?
Bah oui, la marche, on est très content de la façon dont ça s'est passé. La com n'avait pas été phénoménale avant, et puis c'est les vacances, il y en a qui travaillaient, du coup on n'a pas eu un monde énorme, parce que sûrement parce qu'on n'en a pas assez parlé, puis c'était une première aussi, du coup je pense que beaucoup de gens se demandaient un peu à quoi ça allait ressembler, puis ils sont pas motivés. Mais on a eu jusqu'à un peu moins de 100 personnes dans les soirées, au total peut-être 150, du coup c'était pas mal, et puis l'ambiance était vraiment excellente, et puis du coup on a... Notre idée, c'était vraiment de faire quelque chose entre nous, entre les gens qui sont opposés à l'autoroute, et pour découvrir le tracé. Du coup, ça, c'est magnifique.
D'accord.
Okay. On a suivi beaucoup plus que le tracé Machy-Thonon. On a suivi depuis ce qui était lancé, la 400. La 400, c'est l'autoroute que l'ACPAT avait fait 67, et qui, du coup, vu qu'ils n'ont pas pu la faire à l'époque, c'était à peu près 40 km, du coup, ils l'ont coupé en 4 tronçons. Il y a 2 tronçons sur les 4 de fait, mais qui étaient des reprises un peu des tracés existants ou alors des tournements de tenons. Mais il restait 2 à faire, dont le tronçon Mechie-Tenon, qui est le plus urgent. C'est ça qu'on se surtout qu'on le suit en ce moment. Et puis, du coup, on est parti d'à peu près vers la 40 à Bonne, près de Nangy, là où elle doit repartir. Et puis, on a suivi un peu les endroits les plus beaux qu'on connaisse. Et puis aussi les endroits ordinaires qui sont un peu le long du tracé, pour voir un petit peu ce que ça voudrait dire concrètement de passer une autoroute dans des endroits comme ça.
Ouais, d'autant plus qu'il y a déjà une route qui existe, si j'ai bien compris. Non.
Oui, toute façon, il y a déjà des routes, il y a une partie, c'est le plat de Saint-Cergue, si vous voyez au pied des Voirons,
oui.
Qui était en 3 voies, très dangereux, et les travaux qui ont été faits, c'est en 4 voies. Après, c'est des nationales, c'est des routes nationales et qui sont un peu plus saturées, l'ASPAT, on a beaucoup étudié la question et puis on a bien montré que c'est pas en construisant des nouvelles routes qu'on résoudra les problèmes de circulation qu'on a dans la région.
Quoi. Bien entendu.
Surtout que quand ce qui concerne cette route, l'année prochaine, il y a le CEVAT qui va rentrer en service et son nouveau nom maintenant, c'est l'Emma Express, du coup. Ça va tout changer en matière de transport parce qu'il y aura un train qui fait 20 minutes toutes les 2 heures entre Tenon et Genève. Qui amènera en très peu de temps, enfin en 35 minutes, depuis Tenon, on sera à la gare des Eaux-Vives, en 50 minutes pour Cornavin. Du coup, ça va tout changer, alors qu'aujourd'hui, il faut pas 2 heures, quand les trains sont en service, normalement, les bouchons devraient se réserver en grande partie. Quoi. Et puis, c'est des argumentaires techniques, et puis surtout, les effets qui ont. Vu l'état de ce qu'on sait du climat, des ressources en énergie fossile, de la façon dont il faut les économiser, la façon dont il faut protéger les terres agricoles, la biodiversité, etc. On peut plus s'amuser à construire des autoroutes comme il y a 40 ans en arrière où on n'avait pas conscience de tout ça.
Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui est à l'origine de ce... Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Oui.
Voilà
un peu pourquoi on a fait ça.
Ouais. Dis-moi, est-ce que vous qui êtes à l'origine de ce projet d'autoroute, quels en sont les... Il y a des lobbies derrière qui essayent de que ce projet se fasse ou comment ça se passe?
L'autoroute, elle est portée surtout par des élus. Surtout par des élus, en particulier ceux du conseil départemental. Qui sont des pro-routes fanatiques, il n'y a pas vraiment d'autres mots, quoi. Même s'ils s'en défendent, bien sûr, qu'ils font du multimodal, mais la quasi-totalité des budgets part à la route, ils ont un quantité impressionnant de projets en cours. Quoi. Autour d'Annecy, il y en a 13, il y en a vraiment un peu partout, alors que c'est une région qui est sursaturée de pollution. On sait très bien que c'est pas vu la densité des populations, c'est pas en faisant des routes en mettant tout le monde sur des véhicules individuels qu'on arrivera à résoudre le problème de saturation, mais bien en faisant des transports en commun, en laissant de la place au mode au piéton, au vélo, au mode de circulation, et puis aussi en changeant un peu de modèle de croissance et de développement. Enfin, la Haute-Savoie gagne 12 500 habitants par an, alors qu'il y a des régions qui se désertifient. Du coup, est-ce que c'est vraiment intelligent de construire une nouvelle autoroute pour pouvoir attirer encore plus de touristes dans les stations et encore plus d'entreprises et d'emplois et de frontaliers pour que les frontaliers et les frontalières aient travaillé encore plus loin et habiter encore plus loin de leur lieu de travail? Voilà, on n'a pas trop envie de voir détruire toute la nature auquel on tient pour ces objectifs-là.
Ouais. Ben, bien sûr. Et alors, justement, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous diraient « Oui, mais voilà, c'est le sens de l'histoire, le développement économique. Comme tu le dis, eh bien, nous constatons que c'est une région extrêmement dynamique et alors, il faut se doter des outils qui soutiendraient cette évolution économique. » Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à cela, à cet argument-là?
Qu'est-ce qu'on répondrait à ça? Que c'est surtout un transfert, quoi. Le développement, c'est surtout un transfert. En fait, on prend les forces vives dans des régions qui sont en train de se désertifier pour les ramener ici. Et puis, autant faire en sorte qu'ils travaillent partout, ou alors, que chacune puisse vivre dans son coin correctement, parce qu'il y a des régions qui sont vides. Du coup, il y a beaucoup de personnes âgées dans des coins avec leurs enfants qui sont partis travailler dans une grande métropole, dont la métropole genevoise. Et puis, ça fait aussi des ce qu'on appelle des doubles frontaliers, parce que c'est des gens qui sont l'un de leur famille, l'un de leurs amis, souvent isolés chez eux, qui débarquent dans la région sans connaître grand monde, et qui souvent assez isolés socialement, et qui sont des pendulaires, enfin, double pendulaires. La semaine, ils font des grands trajets pour aller pour le travail, et le week-end, ils repartent dans leur région d'origine voir leurs amis et leurs familles. Du coup, ça fait ni d'animation dans les villages, ni rien. Et puis, et vu le niveau de saturation qu'on a déjà en termes de densité de population, en termes de pollution de l'air et tout, est-ce que c'est à la population que ça profite de rajouter encore et encore de l'économie, de rajouter encore de l'activité dans le coin? Pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi je suis paysan, par exemple, plus il y a de monde, plus on a de pression, plus c'est difficile.
Ouais.
Et puis il y a quand même pas mal d'activités comme ça, et tout le monde a besoin, tout le monde cherche des endroits calmes pour aller se promener, pour respirer, parce qu'on a quand même un problème de l'air qui est assez dramatique.
Bien sûr. Donc,
la vallée de l'Arve, c'est une des 12 les plus polluées de...
Ah bah, certainement.
Les 12 sites les plus pollués en France au niveau de la qualité de l'air. Dans le Grand Genève, on estime au moins 400 morts par an là, à cause de la pollution de l'air.
Mmh, ouais. Clairement, ouais.
Du coup, dans ce contexte-là, raser des forêts pour construire des autoroutes, est-ce que c'est vraiment le plus pertinent?
C'est clair. Alors justement, quand vous tenez ce discours-là, est-ce que la population, est-ce qu'elle l'entend et est-ce qu'elle prend fait et cause? Ou est-ce que justement, c'est pas évident parce que certains sont un petit peu dans le déni ou n'entendent pas ces arguments-là? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un soutien inconditionnel que vous avez pu observer au sein de la population?
La population, c'est pas évident. Et en fait, il y a des différences entre les vallées. Si on prend la vallée de l'Arve, par exemple, les gens, et depuis longtemps, il y a eu beaucoup d'informations faites par les associations par rapport à la pollution de l'air. Et ils ont bien compris, surtout, que les dangers que ça leur faisait prendre de vivre dans un environnement pollué, surtout depuis le gros pic de pollution qu'il y a eu à fin 2016, où les enfants avaient interdiction de sortir en récréation, l'activité sportive était proscrite. Enfin, il fallait arrêter de respirer en attendant que le pic de pollution passe. Sachant que les pics, c'est une chose, mais c'est encore plus grave, c'est la pollution chronique, c'est celle qu'on a fait tous les jours, même quand c'est pas en période de pic. Et voilà. Alors que dans le Chablais, c'est pas la même chose. Il y a une propagande assez féroce qui a été faite par les pro-autoroutes, en faveur de l'autoroute et avec l'argent du conseil départemental. Et du coup, ils ont fait de la pub à la radio, dans toutes les boîtes aux lettres, dans les journaux, enfin, vraiment partout, quoi. Et les journaux sont acquis à la cause de l'autoroute aussi, la presse locale, le Dauphiné, le Messager, le Messager, c'est vraiment caricatural.
Mais même le Dauphiné,
c'est pas évident quand on a une presse partisane comme ça qui est complètement en faveur de l'autoroute, que la population s'y oppose, quoi.
Ouais.
Mais on fait notre maximum, on essaye d'être présent là où on peut, de faire une contre-information, sans avoir les moyens de conseil départemental.
Bien sûr.
On
ne
peut pas envoyer des 4 pages sur papier glacé dans les 23 000 boîtes aux lettres de la région avec l'argent du contribuable.
Mm-hmm.
Mais ça porte de plus en plus, quoi. Enfin, on essaie de répondre un peu par le bon sens.
D'accord. Et donc, typiquement...
Avec le bon sens et avec nos arguments écologiques et tout ça, qui ne sont jamais employés par les autres. C'est un déni total de ces trucs-là. Et puis,
ouais. Il
laisse se répandre des idées reçues qui sont démenties par toutes les études sérieuses, en particulier l'étude d'impact de l'autoroute.
Voilà, j'allais te demander, parce qu'une étude d'impact a eu lieu et elle met à mal ce projet, ou bien en tout cas, elle en dénonce des défauts, quoi, évidents, pas tant.
Oui, il est assez fou. Ouais. On a pu lire dans Enfin, il y a une très grosse étude d'impact qui a été faite. Il y a l'autorité environnementale, par exemple, qui a pris, qui a fait un rapport qui est vraiment vitriol par rapport au projet. Et oui. Bon, ça nous conforte vraiment dans l'idée que. Mais... dans l'idée que c'est vraiment pas le moment de faire ça.
Ouais, mais est-ce
alors
à dire...
qu'on a le train qui arrive, le bus.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce à dire que ces études d'impact, elles sont là pourquoi au bout du compte? Parce que si effectivement on voit qu'elles constatent des défauts patents, comme on l'a dit, évidents, énormes, mais que quand même les lobbies continuent et que quand même la population, eh bien, malheureusement désinformée comme elle l'est, eh bien, continue d'aller dans le sens du projet. Voilà, on se demande à quoi va servir au bout du compte, à quoi servent ces études d'impact. C'est un peu problématique.
Elles servent déjà à nous, ouais. À montrer, à nous donner déjà des armes, déjà pour nous défendre, pour éventuellement contester le projet en justice si on doit aller jusque-là un jour.
D'accord, donc voilà, ça c'était pour en venir, donc il y a une vraie utilité quand même.
Ouais, et puis elle est quand même... Elle a été lue par quelques personnes, mais effectivement, c'est 900 ou 1000 pages. Donc oui. C'est pas à la portée de tout le monde, avec des techniques et tout ça. Donc, du coup, c'est pas évident. Et puis, pour la population, en fait, ils argumentent beaucoup un peu sur des idées très simples, quoi. Vous en avez marre des bouchons, vite une autoroute, quoi.
Enfin, ouais.
C'est vraiment basique. Et du coup, pendant l'enquête publique qui a duré qui s'est passée entre juin et juillet, là, sur un mois et demi, il y a vraiment eu, il y a eu une pression monstrueuse pour que les gens aient déposé en faveur de l'autoroute. Il y a des choses assez troublantes, comme le fait qu'ils aient déclenché plein de travaux à ce moment-là sur les routes principales, du coup avec des feux qui rajoutaient des kilomètres de bouchons, qui faisaient que les gens étaient excédés, quoi. Et du coup, en étant excédés, ils ont envie il faut trouver une solution. Mais bon, c'était pas des idées simples. Ben, c'est assez pervers d'avoir fait ça à ce moment-là, en plein de période de travaux. Et puis aussi, alors que l'élément express n'est pas en service. Quoi.
Ouais.
Alors que jusqu'en 2011, il y avait beaucoup de gens qui prenaient le train pour la Genève. Depuis, le train, il s'arrête à Annemasse. Du coup, à Annemasse, en fait, pour quelqu'un qui habiterait Thonon, il faut descendre, prendre le train jusqu'à Annemasse, descendre, prendre le bus qui fait tous les travaux dans le cercle, qui échappe tous les bouchons, les travaux dans le secteur de Moelle-Sula et tout ça. Du coup, ça mène le centre-ville à 2 heures. Quoi. Du coup, c'est pas crédible d'y aller en voiture.
Ouais.
C'est pas possible vraiment d'y aller en transport en commun, à part pour les gens très motivés. Et puis, et les quelques-uns, et les personnes qui vont en vélo ou en vélo électrique.
Ouais. Donc,
ça, c'est une priorité, alors qu'avant, c'était beaucoup plus de gens jusqu'en 2011. Et ce sera énormément plus à partir de dès que le CEVA sera en service. Quoi.
Ouais. Donc on sent qu'il y a une situation un peu de crise qui est créée et qui est maintenue pour, d'une certaine manière, faire la propagande au bout du compte pour ce projet autoroutier.
Oui, voilà. Ouais.
Mmh. Ok. Alors dis-moi, quelles sont les échéances de ce projet? Comment va-t-il se passer maintenant?
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ouais. Eh ben, là, du coup, l'enquête publique est terminée. On attend l'avis des commissaires enquêteurs, qui étaient 3 personnes là, qui doivent rendre ça au plus tard à la fin août, à la fin du mois, qui vont donner un avis négatif ou positif, enfin, favorable ou défavorable. On soupçonne que ce soit un avis favorable avec des réserves. Voilà. Et ensuite, après cet avis, le ministre, normalement c'est le Premier ministre, qui doit signer la déclaration d'utilité publique ou pas. Okay. Il a 18 mois pour le faire. Voilà.
Mm-hmm.
Du coup, donc on s'attend à ce que ça aille jusque là. Et puis une fois que ça sera passé, on a 2 mois après la signature de la DUP pour faire un recours éventuel en justice.
D'accord.
Du coup, c'est en réflexion.
Ouais, j'imagine. Donc là,
jusque là. Sachant qu'en 97, c'est comme ça que le projet était tombé. Quoi. Était déjà la DUP était signée. Et c'est l'ACPAT qui avait déposé un recours au Conseil d'État et le Conseil d'État a jugé que le projet était d'inutilité publique. Quoi. Du coup, il a testé l'arrêté et le projet n'était pas fait.
D'accord. Et dans le cas où ça ne suffirait pas, est-ce qu'au sein de l'ACPAT, vous relanceriez voilà, un projet, enfin une marche, une résistance. Parce que voilà, je voulais juste dire ces quelques lignes, hein, mais cette marche organisée donc par l'ACPAT, voilà, il y avait un libellé que je trouvais vraiment très très sympa. Alors je vais vite le citer. C'était donc la grande marche de l'ACPAT se déroulera juste après l'enquête publique. Ça, on l'a dit. C'était donc la semaine passée, les 5 jours. Nous voulons vous montrer les richesses du territoire et voir ce qui pourrait être détruit par ce projet autoroutier. Trop destructeur, ringard, inadapté à la croissance de la population. Nous vous montrerons tout ça. Concerts, spectacles, conférences, de bivouac en bivouac. Prenez de bonnes chaussures, de marche. Pour des vacances en famille, pour votre voyage de noces, pour faire la fête, pour étudier les castors, mille et une raisons d'être avec nous pour cette ZAD mobile. Alors le mot est lancé, la ZAD. Est-ce que voilà, la résistance pourrait aller jusqu'à ce qu'une forme de ZAD mobile ou sédentaire, je ne sais pas, pourrait se tenir?
Voilà, c'est un...
Ouais, c'est un oui, non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que quelles seraient les formes de résistance auxquelles vous pensez d'ores et déjà peut-être, et de quelle manière est-ce que nous, on pourrait eh bien, vous aider d'une certaine manière, comment soutenir l'ACPAT depuis Genève?
Eh bien, depuis Genève, participer à nos événements quand on en organise. Là, on a fait deux années de suite une vélorution, enfin une agro-vélorution, on appelait ça, parce qu'il y a du coup un défilé tracteur, vélo. Il y avait aussi un défilé piétons et quelques chevaux qui étaient là. Mmh. Et voilà, on a eu un peu plus de 400 personnes l'année dernière, un peu moins cette année. On a fait la marche là pour... c'était la vélorution, c'était vraiment à usage... Enfin, vraiment pour faire montrer qu'on était avant l'enquête publique, il y avait du monde qu'on est pour faire, pour poser dans le débat public. La marche c'était beaucoup plus à usage interne. On est vraiment beaucoup resté dans les forêts. On a fait des concerts entre nous. On a fait pas mal de rencontres avec des spécialistes de la forêt, avec des naturalistes qui sont venus nous parler des oiseaux, des amphibiens, des libellules, de plein de choses. C'est beaucoup à usage interne, quoi. Et du coup, on a vu tout ça, et aussi pour créer des liens entre nous, et pour faire des connexions entre des gens de différents univers, et puis pour passer du bon temps aussi, c'est un peu notre idée. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis, sinon, en termes de résistance, on est dans une phase là où on essaye d'attraper de convaincre un peu un maximum de gens de nous soutenir pour l'enquête publique. Du coup, on a réussi à obtenir déjà à peu près l'essentiel du monde agricole est avec nous, quoi. En tout cas, quasiment toutes les fermes du tracé ou dans les environs sont de notre côté. Il y a le syndicat du Reblochon qui est contre. Il y a pas mal de gens, même du groupement transfrontalier européen. La totalité des associations de chasse du coin qui sont contre le projet, ça a d'ailleurs fait un petit scandale avec parce que leur fédération départementale était pour des raisons politiques, et du coup alors que tous les chasseurs locaux sont contre, voilà, du coup ça a clashé un petit peu entre les associations locales et leur fédération départementale. Mais voilà, on continue vraiment dans cette optique-là de chercher les soutiens les plus larges qu'on peut. Mmh. Et puis on a voulu se faire un peu se rencontrer tout ce monde-là à l'occasion de la marche, quoi. Ouais. Et en essayant de se connaître, de se comprendre, de passer des de faire de créer un ciment une position un peu la plus large possible, et la plus large et la plus forte possible, quoi. Mmh. Sachant aussi qu'il y a les gens qui sont sur le tracé, ils sont pas prêts à lâcher le morceau comme ça. Et puis, comme par exemple la ferme de la dernière ferme où on était le soir, elle est en totalité sur le tracé. C'est une ferme maraîchère là, en permaculture et tout. Ils sont installés depuis quelques années là. Ils ont vraiment pas envie de partir. Et c'est vraiment d'utilité publique ce qui se passe dans ces fermes-là et puis sur les forêts, quoi. Du coup, ça nous concerne vraiment. Ça concerne absolument tout le monde, quoi.
Absolument, tout à fait.
Non, c'est clair. Il y a 200 hectares qui disparaissent de forêt à proximité de la ville. En termes de qualité de l'air, pour l'eau, pour l'air, pour notre alimentation de proximité, pour tout ce qu'on veut, c'est vraiment... Ouais. C'est crucial de ne pas laisser faire.
Ouais, et puis il faut donner un signal fort à un moment donné, ça suffit, il faut changer notre vision du monde, changer nos rapports au déplacement. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner, interroger au plus vite, puisqu'on le voit bien que les choses saturent et qu'on ne peut pas continuer comme ça, clairement, si on est ne serait-ce que tout simplement rationnel. On voit bien que voilà. Dis-moi, est-ce qu'une deuxième marche naîtrait déjà doucement dans vos esprits, ou voilà, ça pour le moment, vous avez fait cette première grande marche, pour le moment, disons que vous n'allez pas reconduire ce type de résistance là.
Eh ben, on vient de la passer. Enfin, on était un petit nombre à l'avoir préparée. Du coup, c'est un peu, on s'en accuse des coups un peu. C'est assez épuisant quand même d'avoir organisé tout ça. Puis là, ça vient de se terminer. Du coup. On en est là, mais ça a plu à tout le monde, et du coup, on a eu pas mal de demandes des gens pour dire quand vous la refaites, on remet ça l'année prochaine. Ça se peut bien que ça se refasse l'année prochaine. Si ça se fait, ce sera certainement un peu court. On fera pas l'intégralité du tracé à 400, c'est-à-dire l'autoroute à 40, depuis l'autoroute Chamonix-Genève, là. Jusqu'à Thonon, on serait sûrement un peu plus court, et en particulier dans la forêt de Plambois, qui est la grande forêt qui va se faire sacrifier par l'autoroute. C'est cette grande forêt qu'on voit entre Sier, Bonchablais, Périgné, Balaison, un peu, si vous voyez un peu la configuration, quoi. C'est vraiment une grande forêt de plaine, et puis c'est un endroit assez magique, quoi. On se dit que c'est important d'aller s'y promener, de le faire connaître, pour la faire connaître, pour la faire aimer. Et on aura envie de défendre, parce que c'est quelque chose qu'on aime, quoi. Et là, en fait, elle est très méconnue, parce que les gens au sens large, en m'incluant dedans, c'est soit on va au lac pour se baigner, puis du coup, il y a un grand attachement de tous les gens au lac, et on peut pas s'en prendre au lac Léman impunément, sans... S'il y avait des grands projets destructeurs du lac, il y aurait tout de suite une levée de boucliers monstrueuse, et puis énormément de gens pour défendre le lac. Et les montagnes, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la nature montagnarde et tout ça. Mais ce qu'il y a entre les deux, eh ben, en fait, il y a une grande méconnaissance. Cette grande forêt de plaine, par exemple, elle est très peu fréquentée. Il n'y a pas de chemin de randonnée, tout ça, c'est très peu indiqué. C'est très facile de s'y perdre. C'est vraiment... On peut vraiment faire l'aventure. L'aventure, quoi, commence vraiment au coin de la rue, mais à l'autre bout du canton, quoi. On veut faire la faire connaître pour qu'on. Parce qu'on peut pas. Vu la à quel point c'est magnifique ces endroits-là, on peut pas. Quelqu'un qui aura vu ces endroits, qui aura vu les barrages de Castor, qui aura vu tous ces petits ruisseaux qui courent dans les bois, on peut pas détruire ça. Si on a vu cette beauté-là, on ne peut pas y laisser détruire sans réagir.
Tout à fait. Non, mais c'est très bien. Je trouve que c'est une très belle attitude, en tout cas, très positive comme ça, de dire venez voir ce qui pourrait être totalement détruit de ce fait-là. Et du coup, j'imagine que les personnes qui viennent, prennent ensuite fait et cause pour vous, en tout cas. Dis-moi, on ne l'a pas encore dit, mais il faut quand même préciser que le site internet de l'ACPAT, on y trouve justement toutes ces informations-là. Alors, je vais le dire, c'est www.acpat.e/mon-site.com. Et on mettra bien sûr le lien au libellé du podcast sur notre radio. Et dis-moi, Raphaël, alors déjà, grand merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que vous allez peut-être participer au prochain festival Alternativa Léman ici à Genève? Ce sera, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Le 22 septembre au Parc des Bastions. Là, c'est vrai que pourquoi pas, ça peut-être permettrait une visibilité ultérieure à l'ACPAT.
C'est une possibilité. Là, jusqu'à maintenant, on était vraiment tendu vers la préparation
de la marche.
L'enquête publique, et puis la préparation de la marche. Mais là, il y a le tour Alternativa qui doit se passer fin août. Du coup, normalement, il y aura une petite présence à... L'ACPAT a prévu de faire une petite présence à ce moment-là. Et puis après, pourquoi pas d'aller tenir un stand à l'Alternativa aussi, fin septembre.
Ok.
Au salon, c'est une possibilité.
D'accord.
On est encore pas, on est encore pas certain de gueuler, mais.
Bien sûr. Ouais. En tout cas, si de quelle aide aurait besoin l'ACPATEL? Est-ce qu'elle aurait besoin de nouveaux adhérents, par exemple, de quelques sous? Vous êtes en recherche de quoi en ce moment?
Nouveaux adhérents, forcément. Tout le monde est très bienvenu. On a besoin de soutien, on a besoin de personnes qui participent à nos manifestations, ça nous renforce. L'année dernière, on a vraiment surpris le monde en rassemblant 400 personnes, ce qui est pourtant pas énorme contre le projet, parce que pour les gens qui les promoteurs du projet, l'opposition à l'autoroute, ça se résumait à 5 personnes, quoi. Enfin, ils avaient vraiment l'impression que c'était que l'affaire de quelques personnes, et en fait, non, pas du tout, quoi. Du coup, plus on sera à nos manifestations, mieux ce sera. Et puis, s'il y a des gens qui peuvent venir quand on fait des inventaires naturels, quand on fait une sorte d'occasion, ou pour faire une petite intervention au moment de la marche, ou on a eu des camarades de Genève qui sont venus pour nous faire les repas de soir sur les seins, qu'on a eu, il y a plein de façons d'agir, quoi.
Ouais, très bien, très bien. Eh bien, écoute, on a pris bonne note de tout ça. Nous, on va évidemment relayer tous ces propos et se tenir en alerte. Et puis, j'espère qu'on va se rencontrer un petit peu plus loin pour continuer, en tout cas, de vous soutenir au mieux de nos moyens. Je te remercie beaucoup, Raphaël, d'avoir pris du temps.
Merci à vous. Hein.
Bah, avec beaucoup de plaisir. Je voulais juste voir s'il y a des questions, parce que comme on est là depuis un parc splendide avec le collectif Beaulieu à côté de nous, alors je ne sais pas si tu connais, mais le collectif Beaulieu, c'est un collectif fêtier avec une douzaine d'associations qui vont des semences de pays aux galinettes urbaines en passant par les abeilles citadines. Donc on est vraiment dans un lieu particulier et qui justement se questionne sur quel est ce rapport à la nature et ce rapport de la nature également en ville. Donc on est en public, donc des gens sont parmi nous et il se trouve que Philippe... alors tout d'abord, est-ce que tu as encore 5 minutes, Raphaël?
Est-ce que je peux rester 5 minutes?
Est-ce que tu as encore 5 minutes, ouais, pour répondre rapidement à une question? Ouais. Alors Philippe a une question.
Je me posais un peu là pour me situer un petit peu. Machy, c'est bien juste à côté de Douvaine.
C'est avant Douvaine, oui.
C'est un peu avant
en
Douvaine.
Depuis Admas, ouais. En venant d'Admas, oui.
Voilà,
Machy, en venant d'Admas. Ça touche Jussy. C'est tout près des bois de Jussy, en fait.
Exactement. Donc, en fait, il y a déjà quelque chose en place qu'ils ont fait dernièrement, il y a peut-être un an ou deux, entre Admas, Saint-Sergue, Thonon. Et quand on vient depuis le bord du lac de Genève, on a aussi une partie qui contourne Thonon et Vian. Et on est bien équipé de ce côté-là. Là, moi, il me semblait qu'il manquait quelque chose. On aurait pu dire qu'il manque quelque chose. C'est le tronçon entre Saint-Gingolph et Vian. Vian et puis Thonon. Et là aussi, on a parlé du Seva. Est-ce qu'il y a le train, parce que je sais qu'il y a, ça a été abandonné, c'était remis en route, c'était réabandonné, le train qui devait faire Saint-Gingolph, Évian, qui devait, en fait, mais je crois même qu'il devait aller jusqu'à Sion, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est au courant, est-ce qu'on a une nouvelle par rapport à tout ça?
Eh bien, oui, normalement, ce train-là, on l'appelle le Tonkin, la ligne du Tonkin. Elle est fermée. Il n'y a plus de train qui circule, mais elle est encore officiellement ouverte. La ligne existe toujours officiellement, même s'il n'y a pas de train qui circule. Du coup, c'est un projet qui est pour 2021, normalement, la réouverture de cette ligne-là. Mais c'est quelque chose de très intéressant parce que la ligne existe déjà. Il n'y a pas de travaux à faire. Il y a seulement une petite histoire de quelques centimètres pour que les trains d'aujourd'hui puissent passer dans les lignes, dans les tunnels qui ont plus de 100 ans. Et sur cette voie-là, il y a à peu près 4000 frontaliers qui passent pour aller travailler dans le Valais. Du coup, c'est facile d'imaginer qu'une bonne partie de ces gens-là qui créent les bouchons à Saint-Gingolph, du coup, Saint-Gingolph a un projet de déviation un peu tout du long, puissent monter dans le train. Et puis surtout alors que l'autoroute il sera en cul-de-sac à ce niveau-là, puisque l'autoroute elle va déboucher sur le contournement de Thonon, et à la fin du contournement de Thonon ça revient en deux voies, enfin ça passe de quatre voies à deux voies au niveau de la Drance, Et après, c'est tout complètement saturé jusqu'à Évian. C'est déjà saturé aujourd'hui. Mais si on fait une autoroute, on sait que chaque fois qu'il y a une nouvelle route, la circulation augmente. C'est mathématique parce que puisque ça circule mieux, on circule plus. Enfin, ça c'est quelque chose qui est plus à prouver, c'est une certitude. Du coup, on va aggraver les bouchons dans le secteur des viandes. Et puis aussi dans le secteur d'Annemasse, aux entrées de Genève, il n'y aura pas plus de place pour se garer en ville. Enfin, voilà. Du coup, on compte vraiment sur ces trains pour résoudre une bonne partie du problème. Plus l'élément express qui sera aussi, c'est une voie de bus régulière tous les 10 minutes, de 10 à 15 minutes, depuis Genève Centre jusqu'à Toulouse. En passant par Sier, par Douvaine-Sier. Du coup, qui permettrait de résoudre une bonne partie des bouchons qui sont sur cet axe-là, alors que l'autoroute elle-même enlèvera seulement 10% du trafic dans les projections qui sont. Si ça a répondu à votre question.
Oui. Une seconde question qui m'était venue à l'esprit tout à l'heure. Au niveau des gares, par exemple à Annemasse, les parkings autour des gares étaient vraiment dérisoires à comparer aux besoins qu'il y aurait. Les différentes gares le long du tracé français du CEVA et des autres trains qui existent déjà. Et évidemment, les gens, s'ils ne peuvent pas garer leur voiture à proximité d'une gare, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent jusqu'à Genève et puis c'est vite le bordel sur les routes, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ces gares, pour que les gens puissent stationner leur voiture, faire des parkings d'échange, des choses comme ça?
Ça se discute. Il y a certaines petites gares où il y a un peu plus de place, comme à Machilly ou à Périgné. Il y a un peu plus de place, mais ce sera vite saturé avec l'élément express. Du coup, il y a rien que je connais pas vraiment dans le détail, c'est ce qui va se passer au niveau des gares. Mais nous, on milite pour que les bus qui y a actuellement, les bus du conseil départemental qui sont plutôt en concurrence du train, ils soient plutôt faits pour que les bus servent à aller chercher les gens dans les petits villages et dans les villages de montagne et ceux qui sont pour les rabattre vers le train, pour les rabattre vers les gares, quoi. Du coup, ce sont des petits bus locaux qui aient vraiment chercher les gens dans les hameaux, dans les villages, pour les ramener vers le train, personne n'ait besoin de prendre sa voiture pour aller jusqu'à la gare. Enfin, ou en tout cas, un maximum de gens. Et puis aussi que ce soit accessible le plus facilement possible au vélo pour combiner vélo et train.
Ok, c'est bon. Et
après, c'est sûr qu'il y a un problème qui va se poser avec ça.
D'accord.
Qui va se poser au niveau des parkings.
Je crois que tu as répondu.
Ouais, merci beaucoup. Ouais.
Super. Bah, écoute, Raphaël, nous on va en terminer là pour aujourd'hui. À moins que d'autres questions ne surgissent, mais je n'ai pas l'impression. Non.
Ouais.
Alors écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout ce temps-là pour répondre à toutes ces questions-là. Nous, comme on l'a dit, on va se tenir bien entendu en alerte et puis on va essayer de relayer au maximum la suite des opérations. On le rappelle, le site de l'ACPAT, donc c'est acpat.e-moncite.com. Et que là, on y trouve évidemment toute l'actualité et puis les prochaines choses que vous allez organiser.
Ouais.
D'accord. Voilà. Ouais, super. Alors écoute, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite bon courage pour la suite des opérations en espérant que ce projet capote, quoi. Est-ce que tu es quand même optimiste? Comment est-ce que tu sens justement ces prochains temps?
Comment on le sent? On est plus optimiste qu'on pouvait l'être il y a quelques années parce que l'opposition était vraiment devenue très faible et là ça reprend bien et puis malheureusement, on a le vent d'histoire avec nous. Enfin, tout le monde prend conscience avec la canicule qui est en ce moment, avec les glaciers qui reculent à la vitesse du cheval au galop, enfin, on exagère un peu, mais qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il y a absolument besoin de changer de paradigme et sortir du 21e siècle, de rentrer dans le 21e.
Oui, clairement. Clairement. Peut-être que, comme tu le dis, on arrive à un moment où les consciences sont mûres Et voilà, comme tu le dis, on va peut-être effectivement changer de paradigme. En tout cas, nous, on le souhaite. Alors, merci encore. L'association de concertation et proposition pour les transports, donc, on l'a dit, est toujours à la recherche de nouveaux membres. Donc, comment est-ce qu'on devient membre? On va sur le site et puis il y a un formulaire de contact. J'imagine que tout ça est...
Oui, il y a un formulaire de contact. En général, l'Assemblée générale, quand on est présent sur des... On fait un stade sur des manifestations ou sur des foires ou des choses comme ça.
Très bien. Merci, Raphaël, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.
Au revoir.
Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand.